Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, second volet de notre histoire du droit du travail, détruire le code du travail.
France Inter, le 31 juillet 1982.
Pour expliquer les mauvais résultats du commerce extérieur, plus de 13 milliards de déficit en juin, M. Jaubert a invoqué le manque de compétitivité des produits français. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Ah, tout à fait. Mais ce manque de compétitivité ne vient pas, comme on le croit quelquefois, d'un manque de technologie. Le manque de compétitivité des produits français, c'est le manque de compétitivité dans le domaine des prix. Effectivement, nos prix français ne sont plus compétitifs.
Pourtant, on a dévalué depuis, ce qui devrait vous donner...
Heureusement qu'on a dévalué, mais malgré cette dévaluation, vous savez que les charges des entreprises ne font qu'augmenter. On oublie toujours que ces charges sont démentielles, n'est-ce pas ? On nous avait fait des promesses tout à fait formelles le 16 avril, et le gouvernement avait pris à cette date conscience que les entreprises françaises étaient trop lourdement chargées. Et qu'elle ne peut plus courir pour porter nos couleurs sur les champs de course internationaux.
En 1982, la principale organisation patronale s'appelait le CNPF. Son président s'appelait Thivon Gataz et c'est lui qui s'exprimait dans l'archive que vous venez d'entendre. 34 ans plus tard, le syndicat patronal a changé de nom. Il s'appelle maintenant le MEDEF. Son président aussi a changé. Aujourd'hui, il s'appelle Pierre Gataz. Les noms ont changé, mais la famille reste. Car Pierre Gataz, c'est le fils d'Yvon Gataz. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que d'une génération à l'autre, le discours, lui non plus, n'a pas changé. Moins de charges, moins de règles, plus de flexibilité. Depuis les années 80, ces revendications patronales sont restées les mêmes. Dans cette émission, nous allons donc essayer de comprendre le discours de ceux qui rêvent de baisser le SMIC et de supprimer le code du travail. Mais avant toute chose, nous allons donner la parole à quelques travailleurs. Ils manifestaient contre la loi El Khomri le 31 mars à Marseille. Le travail, ils connaissent et on les écoute.
On ne négocie pas un recul social, on le combat. On ne négocie pas un recul social, on le combat.
Est-ce que vous travaillez, vous ?
Je travaille.
Qu'est-ce que vous faites comme travail ?
Je suis employée dans une grande surface de distribution.
Pourquoi vous travaillez ?
Alors, pourquoi je travaille ? Eh bien, parce que pour assurer mon indépendance, avant tout, puisque je n'ai pas la chance d'être rentière. Donc voilà, je travaille aussi, donc au départ je travaillais un peu pour gagner ma vie et puis j'ai fini par trouver, je dirais pas ma vocation, mais oui, je fais un travail qui me plaît, voilà. Mais c'est vrai que ça fait plus de 30 ans que je travaille et que je vois bien que les conditions de travail, elles sont de plus en plus en train de se dégrader. Voilà, on est pour faire le même travail, on est de moins en moins nombreux à travailler et on nous demande de faire de plus en plus de choses. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que au niveau du recrutement, de l'emploi, moi je ne vois rien progresser autour de moi depuis que je travaille. C'est l'inverse. On demande à de moins en moins de personnes de faire de plus en plus de travail.
El Khomri, qui est foutu ?
Moi je milite pour un salaire minimum du moment qu'on est, dès la naissance, mais bon, dès la majorité, un minimum pour vivre. Il n'y a plus de travail pour tout le monde, on le sait. Donc c'est la peine de faire l'effort, tout revoir.
Et alors pour vous, vu qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde, ce serait quoi la solution de...
De pas te passer à 25 heures de travail hebdomadaire. Ça donnerait du travail pour tout le monde. Et ceux qui veulent vraiment pas travailler, qui peuvent pas, on leur donne un minimum, un salaire minimum, voilà, de vie, de naissance, de je sais pas comment on pourrait dire, et un toit.
Et vous, faites quoi comme travail ?
Docker.
Et vous aimez votre travail ? Vous l'avez choisi ?
Ouais. Non, j'ai pas choisi, mais bon, vu que c'est de père et fils, ouais, je l'ai choisi, ça le choisir, quoi.
Mais ça vous plaît ?
Ah ben oui.
pourquoi ça vous plaît?
Bah, parce que mon grand-père était docker, mon père était docker, mon arrière-grand-père était docker, mon arrière-arrière-grand-père était docker. C'est de famille, quoi. Voilà.
Donc vous faites pas ça que pour l'argent?
Ah ben non, si on fait ça pour l'argent, on serait pas à docker. Hein. On serait dans le showbiz ou je sais pas, on aurait fait des études plus longues ou je sais pas. Mais bon, si on gagne bien, c'est nous qui s'est battu tout le temps aussi. Hein. On vole rien à personne. Hein.
C'est un travail qui est difficile?
Ouais. Moins qu'avant, c'est sûr, mais c'est toujours un travail dangereux, difficile. Hein. Mais bon, malheureusement, ceux qui font les lois, ils mettent jamais, pour le trois quarts, ils mettent pas les pieds sur le pont et ils disent que si, que là, alors qu'ils n'aiment pas sur le terrain, quoi.
Votez du projet de loi, ni révisable, ni amendable. Votez.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous faites comme travail?
Ben, je forme les jeunes dans les métiers de l'aéronautique. Donc, on prend des jeunes au départ qui n'ont pas trop de qualifications et on les forme pour arriver à un niveau moyen, disons, hein, pour qu'ils puissent travailler en industrie.
Ça fait longtemps que vous faites ce travail?
Ça fait, que je suis formateur, ça fait 6 ans, mais ça fait 46 ans que je travaille. Voilà.
Et alors, est-ce que vous aimez travailler?
Est-ce que j'aime travailler? Oui, ça me plaît d'enseigner mon art, voilà. ce que je sais faire. Voilà. Voilà.
Et vous, par exemple, est-ce que vous considérez que vous avez eu des bonnes conditions de travail dans votre vie?
Des bonnes conditions? Ce qui m'a gêné dans ma carrière, c'est plutôt la pression, le bruit. Voilà. C'est que je me bats parce que je suis délégué syndical aussi dans mon entreprise. Bon. Je me bats contre le harcèlement. Bon. Le harcèlement qui fait mal aux salariés et la pression. Parce que moi, je dirige une équipe où on s'entend très bien avec les gars, je ne mets pas de pression, je rigole même avec ces jeunes, bon. Je leur enseigne mon art, et je veux dire, je leur enseigne mon art dans des bonnes conditions, sans pression, sans rien. Et eux, ils les prennent cool, ils sont contents de venir travailler dans mon équipe, hein. Et contrairement à d'autres équipes où ils ont beaucoup de pression. Voilà.
Et donc, ouais, pour vous, le fléau, voilà, c'est surtout la pression et, qu'on met ouais, sur les salariés, mais c'est une pression pourquoi? Pour qu'ils travaillent plus vite?
Ils ont une pression parce qu'aujourd'hui, on parle de chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, pour avoir du chiffre d'affaires, et tous ces salariés, ils ont la pression. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si les patrons n'ont pas d'argent à ces salariés pour faire plus de production, et les patrons sont perdants. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que nous, dans notre entreprise, où on n'a pas eu encore d'augmentation de salaire, mais les gens, ils se mettent en maladie. Ils se mettent en maladie ou en accident ou autre chose. Bon, ils ne viennent pas bosser. Dans la finalité, aujourd'hui, en donnant un peu d'argent aux salariés pour qu'ils puissent mieux vivre et pour qu'ils puissent avoir un mieux-être chez eux, et bien là, ils auront une meilleure production. Voilà. Les patrons, il faut qu'ils comprennent ça.
Quand on arrive à l'usine, la gaieté nous illumine. L'idée de faire nos 8 heures nous remplit tous de bonheur.
Ah, 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 oui.
D'humeur égale et joyeuse, nous courons vers la pointeuse. Le temps d'enfiler nos bleus et nous voilà tous heureux. La, 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 yeah.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour on est heureux comme des fous. Merci patron,
merci patron,
merci patron,
merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous le rendra.
Quand on pense à tout l'argent qu'au fin de mois on vous prend, nous avons tous un peu honte d'être aussi près de nos comptes.
Ah, 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 ah oui.
Tout le monde à la maison vous adore avec passion. Vous êtes notre bon ange et nous chantons vos louanges.
Like you la, like you la, yeah.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Quel plaisir de travailler pour vous. On est heureux comme des fous.
Merci patron.
Merci patron.
Merci patron.
Ce que vous faites ici-bas, un jour Dieu vous.
Europe 1, il est 8h18.
L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez le président du MEDEF, Pierre Gattaz. Messieurs, c'est à vous.
Europe 1, le 21 mars 2016.
On a un problème majeur, c'est le marché du travail. Le marché du travail est verrouillé en France, c'est une citadelle. C'est un château fort, le pont-levis est redressé, les douves sont pleins d'eau. Ça veut dire que ce marché du travail, il faut le déverrouiller. Et en effet, il faut surtout pas introduire de la complexité dans les PME-TPE. Cette version 2 de la loi El Khomri, elle introduit des mandataires sociaux, 20% de plus de délégués syndicaux, etc., etc. Ça complexifie terriblement et ça inquiète terriblement nos PME, nos TPE, qui sont celles qui vont, qui sont le plus grand réservoir d'emploi de France.
Pierre
Donc
Gattaz.
Cette version 2, attention, il faut impérativement ne pas complexifier ce texte, il faut redresser ce texte, il faut absolument faire des mesures PME-TPE et arrêter de faire des petits arrangements entre amis. Non, dans les PME-TPE, nous n'avons pas besoin de délégués syndicaux, nous n'avons pas besoin de mandataires sociaux syndicaux parce que les gens, les chefs d'entreprise connaissent parfaitement bien leurs salariés directement.
Les petits patrons ne comprennent pas pourquoi ils ont autant de contraintes alors qu'ils ont des problèmes qui sont des problèmes cruciaux pour le maintien de l'activité et pour le maintien des relations salariales.
Mario Correa, sociologue du travail.
En même temps, c'est aussi dans ces secteurs-là où les relations sont les plus brutales. Hein. On a des petits patrons qui considèrent qu'ils sont patrons de droit divin et que donc les salariés n'ont strictement rien à dire parce que c'est eux qui prennent les risques. Hein.
En el triste carnaval, una música brutal, melodías de dolor.
En 1984, Yvon Gattaz, le patron des patrons, promettait que si le gouvernement supprimait l'autorisation administrative préalable au licenciement, des centaines de milliers d'emplois seraient créés. En 2013, Pierre Gattaz, son fils, récidivait. Si le gouvernement baissait leur fiscalité, les entreprises créeraient 1 million d'emplois. Dans ces deux cas et dans bien d'autres, le gouvernement a accepté. Maintes fois déjà, le code du travail a été aménagé. Les temps partiels et les CDD ont explosé, les charges ont été réduites. Mais le chômage a continué de prospérer. Et le discours anti-code du travail n'a malgré tout pas cessé de s'exprimer.
Il y a deux discours. Hein. Il y a un discours sur l'idée que le code du travail est trop contraignant et que du coup ça rigidifie l'organisation et que dans un contexte de mondialisation, d'exacerbation de la concurrence, etc., les règles ne permettent pas assez de flexibilité à l'organisation. Et donc il faut absolument introduire de la flexibilité à l'intérieur de l'organisation. Et pour introduire de la flexibilité à l'intérieur de l'organisation, c'est très simple. On ne va pas être dans les relations industrielles, on va réintroduire des relations qui sont sur le type de relations marchandes. Hein. Et donc, chacun est porteur de sa propre destinée, chacun doit négocier son salaire, chacun a une capacité d'initiative, on a des entrepreneurs individuels à l'intérieur d'une grande organisation. Et avec ce modèle-là, on va introduire de la flexibilité à l'intérieur de l'organisation, et donc on pourra gérer la diversité des demandes, on pourra gérer les changements de procédures, on pourra gérer les changements de produits, etc. Et donc on a l'idée que si on revient à un échange instantané, si on revient au contrat marchand, ça va générer plus de réactivité et plus de profit pour les organisations. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est congruent avec les changements de population active. On a une population active qui est de plus en plus diplômée, qui est de plus en plus demandeuse d'autonomie et donc qui fonctionne relativement bien avec ce modèle. Et donc on va diminuer de plus en plus la part de collectif pour introduire une part individuelle qui est plutôt sur la relation marchande. Hein. Alors ça peut fonctionner relativement bien. Ça fonctionne relativement bien si la population salariée est très diplômée. pour ceux qui ont des déficits de compétences, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de vie, etc., c'est beaucoup plus compliqué parce que du coup, le traitement individuel, vous êtes perdant hein, dans une négociation individuelle. Et donc, le collectif est toujours une garantie. Et puis, surtout, on commence à avoir des organisations qui en prennent conscience. L'introduction de l'échange instantané, bah, du coup, on n'a plus aucune prévisibilité. Hein. Et donc, l'idée que si les salariés vont pas, on les change et on en recrute d'autres, oui, sauf qu'on perd énormément de compétences, on perd de l'organisation, on perd des capacités productives, et donc ça produit aussi des scories industrielles. Et donc, on commence à avoir des organisations qui protestent contre les jeunes parce qu'ils se comportent comme des mercenaires. Non, ils ne se comportent pas comme des mercenaires, ils se comportent comme on leur a dit de le faire. On leur a dit, l'organisation ne vous doit rien. Hein, c'est à vous de gérer votre propre carrière professionnelle et donc vous vous débrouillez. Bah oui, mais si on se débrouille, on ne doit rien à l'organisation puisque c'est nous qui gérons. Et donc on a des petits problèmes de gestion sur le long terme. Donc c'est vrai que l'organisation était trop rigide par rapport aux modifications qui sont en train de survenir. En même temps, avoir une organisation qui devient flexible à tout va, ça ne permet pas de gérer la durée, et donc ça ne permet pas de gérer un certain nombre de problèmes de qualité, notamment des organisations industrielles. Et donc il faut arriver à trouver un modus vivendi. Donc ça, c'est la première raison. Il faut introduire de la flexibilité et c'est une des principales critiques qui est portée contre le Code du travail. Hein. Plus pour les petits entrepreneurs, le Code du travail, c'est des contraintes, c'est des freins à l'initiative individuelle et donc c'est chiant. Et c'est vrai que c'est chiant. Hein. Quand vous regardez le Code du travail, c'est des pages et des pages pour la formation professionnelle, il y a 600 pages de texte pour régler la formation professionnelle. Personne n'est capable de gérer ça. Il n'y a que des spécialistes extrêmement pointus qui sont capables de se retrouver dans ce maquis. Donc c'est vrai que c'est totalement ingérable. Et donc il y a une deuxième partie de la critique contre le Code du travail, c'est on a empilé les textes et du coup on s'y retrouve plus, c'est totalement ingérable, c'est une prime aux juristes, aux avocats, aux procéduriers aussi, hein, que ce soit qu'ils soient salariés ou qu'ils soient représentants des employeurs. Tous ceux qui veulent faire chier vont trouver dans le Code du travail de quoi embêter les autres. Hein. Et par contre, à quoi ça sert, on oublie un petit peu du coup dans ce maquis. Alors le problème c'est... Est-ce qu'on peut réformer le Code du travail en le simplifiant? Alors Alain Supiot a sorti un texte qui est relativement éclairant. À chaque fois qu'on a voulu simplifier le Code du travail, donc loi Rebsamen, ça a comme principe de simplifier le Code du travail. Et donc on est tout à fait dans la même logique. Cette loi rajoute 43 pages au Code du travail. Hein. Et donc on est sur un empilement de textes les uns après les autres. Alors du coup, ça explique pourquoi on a Badinter et Antoine Lioncamp qui produisent un bouquin qui disent « il faut réduire, on va avoir des principes fondamentaux et puis le reste, ça relève de la négociation ». Ça pose d'autres soucis, mais ça explique pourquoi on a cette logique-là. Alors ce que dit Supiot, et c'est relativement intéressant, c'est d'abord, notre Code du travail, il est de la même complexité que ceux des pays qui nous entourent. Et d'autre part, quand on regarde le Code du travail et le Code de la consommation, c'est pareil. Hein. Et donc l'empilement des textes et la procédurisation des rapports n'est pas uniquement celle du Code du travail, c'est quelque chose qui est général dans la société. Et on voit bien dans les imports qu'on a des modes de règlement des problèmes sociaux qu'on rencontre, on importe le modèle le modèle américain, qui est la procédurisation et la juridisation de tous les conflits. Et donc le Code du travail s'inscrit là-dedans. C'est vrai que c'est extrêmement coûteux, c'est vrai que c'est particulièrement inefficace. En même temps, c'est une tendance de fond qui touche toutes les sociétés. Et donc je ne suis pas très sûr qu'on arrive à revenir en arrière très facilement. Mais il y a bien ces deux critiques du Code du travail. D'une part, ça produit trop de contraintes. D'autre part, c'est trop complexe, il y a trop de textes. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Tous ceux qui revendiquent une simplification du Code de travail ne sont pas forcément pour la libéralisation des règles du travail.
Il faut trimer du quand on est un homme. Devenir plus dur et moins malheureux. Il faut trier dur, il faut trier dur, c'est la vie. Ce que je veux, c'est rester libre. Ce que je veux, c'est vraiment vivre. Avoir les choix, garder mes droits et me guider.
Il est 8h22.
Le 7-9, Marc Fauvel, sur France Inter.
Bonjour Éloi Laurent.
Bonjour.
Économiste, professeur à Sciences Po et à l'université de Stanford en Californie, vous publiez Nos mythologies économiques, paru chez Les Liens qui Libèrent, dans lequel vous tentez de déconstruire une quinzaine d'idées reçues, de croyances, de mythes, c'est le mot que vous employez, sur l'économie de marché, sur la protection sociale qui coûterait trop cher, ou encore sur le poids de l'immigration dans l'économie, avec un constat de départ dans ce livre. L'économie est partout, elle nous gouverne quasiment, et pourtant, elle n'est, écrivez-vous, ni une science, ni un art, mais plutôt une mythologie. Pourquoi ?
France Inter, le 28 mars 2016.
La mythologie économique, ce sont des idées économiques qui se donnent pour des vérités scientifiques, mais qui reposent en fait sur des croyances ou sur des préjugés. La mythologie économique qu'on ressasse en France aujourd'hui, c'est le modèle social plombe la compétitivité qui empêche la croissance. Chaque terme de cette mythologie-là est contestable du point de vue scientifique. Il n'y a aucune étude qui montre sur long terme que le modèle social français a empêché le dynamisme économique. La compétitivité ne se réduit pas au coût du travail. On est au 21e siècle, dont la compétitivité, c'est le bien-être des salariés, c'est la santé, etc. Et la croissance n'est pas la finalité de la politique économique au 21e siècle. La finalité, c'est le bien-être humain et le fait de respecter la contrainte écologique. Quand on croit que les mythologies, c'est le réel, on fait d'énormes erreurs. Et la loi travail, c'est très exactement l'exemple d'une mythologie économique qui est la solution au chômage, c'est la flexibilité au service de la compétitivité.
Alors,
cette stratégie-là est en échec.
La loi travail, on le divise, déchire même les économistes qui se répondent à coups de pétitions, de tribunes depuis plusieurs semaines. On aura compris dans ces quelques mots que vous êtes contre. Pourquoi insuffler un peu de flexibilité, ce n'est pas bon pour l'emploi ?
D'abord, insuffler de la flexibilité, il y en a énormément de la flexibilité. Le marché du travail français est hyper flexible aujourd'hui. Donc la première mythologie déjà, c'est
avec 3,5 millions de chômeurs.
Oui, avec 3,5 millions de chômeurs, certes, mais avec aussi une crise financière et des politiques d'austérité qui ont eu un effet absolument désastreux. Le taux de chômage en France a augmenté de 50% entre 2008, où il était inférieur à 7%. Je crois qu'il faut se souvenir, parce que malheureusement, on a une mémoire très très courte dans les débats économiques, et donc on oublie un petit peu les choses. En France, avec le même droit du travail, le même modèle social insupportable, les mêmes rigidités qui nous empêcheraient d'être compétitifs, on avait un chômage qui était tombé à son point le plus bas depuis 1983, avant la crise financière. Vous avez la crise financière, on prend 2 points de chômage, et ensuite vous avez les politiques d'austérité, et on prend 1 point de chômage supplémentaire. 50% de chômage en plus. Où est-ce que les rigidités du marché du travail ont empêché les licenciements massifs qui ont fait augmenter le taux de chômage.
Et tous ensemble, grève générale.
Est-ce que vous travaillez ?
Oui, le site ArcelorMittal à Fos-sur-Mer.
Est-ce que vous pourriez dire que votre travail vous rend heureux ?
Il me rendait heureux, et plus le temps passe, et moins il me rend heureux.
Comment ça se fait ?
Ben avec la mondialisation, nous avons été rachetés en 2006 par M. Mittal, donc qui est plus un économiste qu'un industriel. Et puis voilà, les hommes sont laissés de côté par rapport à la production.
Et vos conditions de travail, elles sont comment ?
Elles se dégradent. Elles se dégradent continuellement. On est en sous-effectif en permanence. Pas d'entretien sur les installations. Et du coup, les conditions sont de moins en moins bonnes.
Vous pensez y rester toute votre carrière dans cette boîte ?
Ben, au départ, j'étais rentré dans ce groupe pour ça, justement, pour faire une carrière. Aujourd'hui, on n'est plus sûr de rien, quoi. Avec ce qui se passe niveau mondial avec M. Mittal, on n'est pas sûr que le site puisse rester 30 ans encore ouvert ou 40 ans, parce qu'on ne sait pas à quel âge on aura la retraite.
Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui ?
Ben voilà, pour manifester, comme tout le monde sait, sur la loi travail et El Khomri. Aujourd'hui, justement, nous, on s'inquiète parce qu'avec un patron comme Mittal, on traverse une crise aujourd'hui par rapport à l'acier chinois qui envahit l'Europe. Et ça fait déjà bien un an. Et si cette loi était déjà passée et active aujourd'hui, ben, il aurait pu licencier à tour de bras.
Une dernière question pour la route. Si demain il n'y avait plus de code du travail, qu'est-ce que ça pourrait donner ?
Une société d'individus ?
Mario Correa, sociologue.
Et donc les individus passeraient des accords de gré à gré. Alors d'abord c'est extrêmement coûteux, hein, puisque l'organisation industrielle permet la prévision sur le long terme. Les accords de gré à gré, ça permet rien du tout, ça permet les échanges instantanés. Et puis ça produit autre chose, c'est ça va quand vous avez les capacités cognitives pour négocier à titre individuel. Dès que vous avez quelque chose qui vous écarte de la norme ou du modèle dominant, vous êtes handicapé, vous avez femme célibataire avec enfant, bas niveau de qualification, du coup vous êtes totalement sorti de ce modèle parce que ce modèle exige des ressources extrêmement importantes pour y participer. Et du coup ça pose le problème de la société dans laquelle on veut vivre. Est-ce qu'on veut vivre dans une société dans laquelle tout le monde y trouve grosso modo sa place, ou dans une société dans laquelle il y a une petite partie des privilégiés qui sont capables de négocier avec le système et de se construire des trajectoires individuelles, et puis une grosse partie qui va subir les contraintes de plein fouet et donc qui va souffrir beaucoup. Alors ils souffrent déjà beaucoup, tous ceux qui ont des problèmes de qualification, des problèmes de santé, etc., souffrent beaucoup, mais si ce modèle est généralisé, ça va être largement pire, et je pense pas que sur le long terme, on puisse construire une société qui tienne, dans laquelle on se batte pas les uns contre les autres, sur des modèles où il n'y a que des privilégiés qui ont accès, grosso modo, à ce que produit la société.
Voilà, ça vient pas de nulle part, c'est fini pour cette fois-ci et pour ce petit tour d'horizon partiel sur l'histoire du code du travail. À la technique aujourd'hui, c'était Sébastien Gély. Pour le reste, cette émission a été préparée par Claire Rivière, avec la participation de Marie-Noëlle Battaglia et de la très rayonnante, ces temps-ci, Juliette Palmade. Merci aussi à Mario Correa, merci à tous nos intervenants. La programmation musicale, les liens, les références sont à retrouver sur le site de Radio Grenouille à la page de notre émission « Ça vient pas de nulle part ». C'est également sur cette page que vous pourrez réécouter les deux épisodes de notre histoire du droit du travail. Libre à vous de le faire de jour assis ou de nuit debout. À bientôt.